36. Quindor Chandès, 25e premier orateur, ne se faisait guère d'illusions sur son compte. Il savait qu'il ne faisait pas partie de ces quelques premiers orateurs qui avaient illuminé par leur dynamisme les 5 siècles d'histoire de la seconde fondation. Mais après tout, il n'avait pas besoin de l'être. Il dirigeait la table dans une période tranquille de prospérité galactique, et les temps n'étaient pas au dynamisme. Il lui avait plutôt semblé que l'heure était à la discrétion, et il avait été l'homme idéal pour ce rôle. Son prédécesseur l'avait choisi pour cette raison.
« Vous n'êtes pas un aventurier, vous êtes un intellectuel »,
avait dit le 24e premier orateur.
« Vous saurez préserver le plan quand un aventurier risquerait de le conduire à sa ruine. Préserver, tel doit être le maître mot de votre table. »
Il avait bien essayé. Et cela s'était traduit dans les faits par une passivité qu'on avait à l'occasion pu interpréter comme de la faiblesse. Il y avait eu des rumeurs persistantes sur son désir de démissionner et l'on intriguait ouvertement pour assurer la succession dans l'une ou l'autre direction. Pour Chandès, il ne faisait aucun doute que Delarmy avait joué un rôle prépondérant dans ces querelles. C'était elle qui avait la plus forte personnalité de toute la table, et même un Jean Dibal, avec toute la fougue et la flamme de sa jeunesse, reculait devant elle, comme il était en train de le faire en ce moment. Seulement, par Seldon. Il était peut-être passif, voire faible, mais il lui restait une prérogative dont jamais aucun premier orateur ne s'était défait, et dont il n'entendait certainement pas se défaire. Il se leva pour parler, et le silence bientôt se fit autour de la table. Lorsque le premier orateur se levait pour parler, il ne pouvait y avoir la moindre interruption. Même Delarmy et Jean Dibal n'auraient pas osé lui couper la parole. Il dit « Orateur, je suis d'accord pour reconnaître que nous sommes en face d'une crise dangereuse et qu'il convient de prendre des mesures radicales. C'est moi qui devrais sortir affronter l'ennemi. L'oratrice de l'armée, avec l'amabilité qui la caractérise, veut me dispenser de cette tâche, prétextant que ma présence ici est indispensable. La vérité, toutefois, est que ma présence n'est pas plus indispensable ici qu'ailleurs. Je deviens vieux, je deviens las. Cela fait longtemps qu'on attend ma démission prochaine. Et peut-être aurais-je déjà dû la remettre. Une fois que cette crise aura été surmontée avec succès, c'est ce que je ferai effectivement. Mais bien entendu, c'est le privilège du premier orateur de désigner son successeur. C'est ce que je vais faire à l'instant même. Depuis longtemps, une individualité domine les travaux de cette table, une individualité qui, par sa forte personnalité, a souvent su assumer la direction que je ne pouvais assumer. Vous avez tous compris que je voulais parler de l'oratrice de l'armée. Il marqua une pause, puis reprit. Vous seul, orateur Jean Dibal, semblait marquer votre désapprobation. Puis-je vous demander pourquoi ? Il se rassit afin que Jean Dibal eût le droit de répondre.
Je ne désapprouve rien, premier orateur,
dit Jean Dibal à voix basse.
C'est votre prérogative de choisir votre successeur.
Et c'est ce que je vais faire. Quand vous reviendrez, ayant avec succès lancé le processus destiné à mettre un terme à cette crise, il sera temps pour moi de démissionner.
Mon successeur pourra dès lors directement se consacrer à mener la politique nécessaire à la poursuite et à l'achèvement de ce processus. Avez-vous quelque chose à dire, orateur Jean Dibal ?
Lorsque vous ferez de l'oratrice de l'armée votre successeur, premier orateur,
dit tranquillement Jean Dibal,
j'espère que vous veillerez à lui conseiller de...
Le premier orateur le coupa sèchement. J'ai certes parlé de l'oratrice de l'armée, mais je ne l'ai pas désignée comme mon successeur. Et maintenant, qu'avez-vous à dire ?
Excusez-moi, premier orateur, j'aurais dû dire,
en supposant que vous désigniez l'oratrice de l'armée pour vous succéder après mon retour de mission, pourriez-vous veiller à ce que je ne compte certainement pas en faire mon successeur, ni maintenant, ni plus tard. Et à présent, qu'avez-vous à dire ?
Le premier orateur ne put s'empêcher de faire cette déclaration sans ressentir une bouffée de plaisir à l'idée de l'estocade qu'il portait à Delarmie. Il n'aurait pas pu le faire de plus humiliante façon.
« Eh bien, orateur Jean Dibal, répéta-t-il, qu'avez-vous à dire ? » ?»«
Que je suis déconcerté. » Le premier orateur se leva de nouveau et dit « L'orateur de l'armée a su dominer et diriger. Mais cela ne suffit pas pour assumer la charge de premier orateur. »
L'orateur Jean Dibal a su voir ce que nous n'avons pas vu. Il a su faire face à l'hostilité du conseil, a su le forcer à réviser son jugement et l'amener à partager ses vues.
J'ai mes soupçons quant aux motivations qui ont poussé l'oratrice de l'armée à placer la responsabilité de la recherche de Golan Trévise sur les épaules de l'orateur Jean Dibal, mais c'est une corvée nécessaire. Je sais pertinemment qu'il réussira.
Je me fie à mon intuition.
Et à son retour, l'orateur Jean Dibal deviendra le 26e premier orateur.
Il se rassit brusquement, et chaque orateur se mit à exprimer son opinion dans un délire de bruit, de voix, de pensée et de mimique.
Le premier orateur ne prêta pas la moindre attention à cette cacophonie, restant indifférent, le regard fixé droit devant lui. Maintenant que c'était fait, il se rendait compte, non sans quelque surprise, du vaste soulagement qu'on éprouvait à se découvrir du manteau de la responsabilité. Il aurait dû le faire bien plus tôt. Seulement, il ne pouvait pas. Il lui avait fallu attendre jusqu'à cet instant pour découvrir son évident successeur.
Et puis son esprit accrocha fortuitement celui de Delarmie et il la regarda.
Parseldon. Elle était calme et souriante. Elle ne laissait rien paraître de son désespoir ou de sa déception. Elle n'avait pas abandonné. Et il en vint à se demander s'il n'avait pas en fait joué son jeu.
Que lui restait-il d'autre à faire ?
37. Delora de l'armée aurait volontiers laissé paraître son désespoir et sa déception si elle y avait vu le moindre intérêt. Elle aurait certes éprouvé bien plus de satisfaction à éliminer cet idiot sénile qui contrôlait la table, ou ce juvénile idiot trop bien servi par Dame Chance, mais ce n'était pas la satisfaction qu'elle désirait. Elle désirait bien plus. Elle désirait être premier orateur. Et tant que lui resterait une carte à jouer, elle la jouerait. Elle fit un sourire aimable et parvint à lever la main comme pour s'apprêter à parler, puis garda la pause, juste assez longtemps pour s'assurer que lorsqu'elle parlerait, ce serait non seulement dans le calme, mais dans un calme radieux. elle parla.
Premier orateur. Tout comme l'a dit à l'instant l'orateur Jean Dibal, je ne désapprouve pas. C'est votre prérogative de désigner votre successeur. Si je m'exprime à présent, c'est dans l'espoir de contribuer, je l'espère, au succès de ce qui est, à présent, devenu la mission de Jean Dibal. Puis-je expliquer ma pensée, premier orateur ?
Faites,
dit sèchement celui-ci. Elle lui semblait beaucoup trop douce, trop malléable. Delarmy hocha la tête, l'air grave. Elle ne souriait plus. Nous avons des vaisseaux, expliqua-t-elle. Ce ne sont peut-être pas des merveilles technologiques comme ceux de la première fondation, mais ils pourront bien transporter l'orateur Jean Dibal. Il en connaît le pilotage, je crois, tout comme nous tous ici. Nous avons des représentants sur toutes les planètes de quelque importance dans la galaxie. Et il sera bien reçu partout. Mieux, il peut même se défendre contre les anti-mulets maintenant qu'il est parfaitement conscient du danger. Même quand nous n'en avions pas encore pris conscience, je soupçonne d'ailleurs ceci d'avoir de toute manière préféré travailler par l'intermédiaire des classes inférieures, voire des paysans choyens. Nous allons bien entendu procéder à un contrôle scrupuleux de tous les membres de la seconde fondation, orateurs compris, mais je suis certaine que leur esprit est inviolé. Les anti-mulets n'auront pas osé interférer avec nous. Néanmoins, il n'y a pas de raison de faire courir à l'orateur Jean Dibal plus de risques que nécessaire. Il n'est pas dans ses intentions de jouer les trompe-la-mort, et mieux vaudrait de toute manière qu'il camoufle quelque peu sa mission, qu'à son tour, il les prenne par surprise. Il aurait donc intérêt à partir déguisé en marchand choyen. Prim Palver, nous le savons tous, a bien parcouru la galaxie déguisé en marchand. Le premier orateur objecta.
Prim Palver avait une raison précise d'agir ainsi, pas l'orateur Jean Dibal. S'il lui apparaît qu'un déguisement quelconque semble nécessaire, je suis bien certain qu'il aura assez d'ingéniosité pour savoir en adopter un.
Si vous me permettez, premier orateur, j'aimerais suggérer une couverture subtile. Prim Palver, vous vous en souvenez, emmena avec lui son épouse, sa compagne depuis de longues années. Rien ne pouvait mieux conforter le côté rustique de son personnage que le fait de voyager avec sa femme. Cela écarta tout soupçon.
« Je ne suis pas marié, » remarqua Jean Dibal. « J'ai bien eu des compagnes, mais jamais aucune ne sera volontaire pour jouer le rôle de mon épouse. »«
Tout le monde le sait, » orateur Jean Dibal, dit Delarmy. Mais les gens considéreront la chose comme allant de soi, pourvu simplement qu'une femme vous accompagne. On vous trouvera bien une volontaire. Mais si vous préférez néanmoins pouvoir être en mesure de présenter des documents l'attestant, je ne crois pas que ce soit un problème. Mais je pense qu'une femme devrait vous accompagner.
Un instant, Jean Dibal demeura sans voix. Elle ne voulait quand même pas dire que... Pouvait-il s'agir d'une ruse pour avoir en fin de compte sa part de succès? Jouait-elle sur l'éventualité d'un partage ou d'une rotation de la charge de premier orateur? Il répondit lugubre.
« Je suis flatté que l'oratrice Delarmy estime qu'elle... »
Et Delarmy éclata de rire ouvertement en considérant Jean Dibal avec un sourire presque affectueux. Il était tombé dans le piège et s'était couvert de ridicule. La table ne l'oublierait pas.
« Orateur Jean Dibal !» lui dit-elle. « Je n'aurai pas l'impertinence de chercher à partager votre mission. Elle vous échoit à vous et à vous seul, tout comme le poste de premier orateur vous reviendra à vous et à vous seul. Je n'aurais pas imaginé que vous puissiez vouloir de ma compagnie. Franchement, orateur, à mon âge... Je ne me considère plus comme une séductrice. »
Il y eut des sourires autour de la table, jusqu'au premier orateur qui essaya d'en dissimuler un. Jean Dibal accusa le coup. Il chercha à limiter les dégâts en essayant d'adopter à son tour un ton léger. Et c'est manqué.
il rétorqua en montrant les dents le moins possible.
Alors qu'est-ce que vous suggérez ?
Je n'imaginais pas le moins du monde, je vous assure, que vous puissiez souhaiter m'accompagner. Votre place est à la table, et en aucun cas au milieu du tohu-bohu des affaires galactiques, je le sais.
Je suis bien d'accord, orateur Jean Dibal, je suis bien d'accord. Ma suggestion, toutefois, avait trait à votre rôle de paysan choyen. Pour lui donner une indiscutable authenticité, quelle meilleure compagne demander, sinon une paysanne choyenne ?
Une paysanne choyenne ? Pour la deuxième fois en peu de temps, Jean Dibal était pris par surprise, au grand plaisir de la table.
« La paysanne choyenne !» poursuivit de Larmie. « Celle qui vous a sauvé d'une rossée, celle qui vous contemple avec vénération, celle dont vous avez sondé l'esprit, et qui, tout à fait inconsciemment, vous a sauvé une seconde fois d'un sort considérablement plus grave qu'une rossée. Je vous suggère de l'emmener avec vous. »
La première impulsion de Jean Dibal fut de refuser. Mais il savait qu'elle n'attendait que ça. C'eût été fournir à la table un nouveau prétexte à rire. Il était à présent manifeste que dans sa hâte à vouloir éliminer de l'armée, le premier orateur avait commis une erreur en désignant pour successeur Jean Dibal, ou, à tout le moins, de l'armée avait au fait de convertir sa décision en erreur. Jean Dibal était le plus jeune des orateurs. Il avait irrité la table, puis avait évité de justesse une condamnation de sa part. D'une manière plus concrète, il avait humilié ses collègues. Plus aucun orateur ne pourrait voir en lui l'héritier présomptif sans en concevoir du ressentiment. C'eût été déjà un obstacle difficile à vaincre, mais à présent, ils allaient en plus se rappeler avec quelle facilité Delarmie l'avait ridiculisé et quel plaisir ils y avaient pris. Et mettant cela à profit, elle n'allait que trop facilement les convaincre qu'il lui manquait les années et l'expérience pour tenir le rôle de premier orateur. Leur pression commune forcerait le premier orateur à modifier sa décision, pendant que lui, Jean Dibal, serait parti accomplir sa mission. Oui, si le premier orateur tenait bon, Jean Dibal se retrouverait totalement impuissant en face d'une opposition unie. Il vit tout cela en un instant et fut capable de répondre presque sans hésitation.
Oratrice de l'armée, j'admire votre intuition. J'avais cru vous surprendre tous. Il était effectivement dans mon intention d'emmener la paysanne choyenne, bien que pas exactement pour la raison par ailleurs excellente que vous avez suggérée. C'était pour son esprit que je souhaitais la voir m'accompagner. Vous l'avez tous examiné. Vous l'avez vu tel qu'il était, d'une intelligence surprenante, mais par-dessus tout, claire, simple, sans la moindre ruse. Aucune intervention extérieure ne pourrait y passer inaperçue, comme vous l'aurez tous conclu, j'en suis sûr. Je me demande si vous avez songé, oratrice de l'armée, qu'elle pourrait ainsi jouer le rôle d'un excellent dispositif d'alerte avancée. Je pourrais détecter les premiers symptômes d'une activité mentaliste grâce à son esprit, et sans doute plus rapidement qu'avec le mien. »
Une espèce de silence étonné accueillit cette déclaration, et Jean Dibal poursuivit d'un ton léger.
« Ah ! Je constate que pas un de vous n'avait vu ça ? Enfin bon, c'est sans importance. Eh bien, je vais me retirer à présent. Il n'y a pas de temps à perdre.
Attendez ! Dit Delarmie qui voyait pour la troisième fois l'initiative lui échapper. « Qu'avez-vous l'intention de faire ?» Jean Dibal eut un petit haussement d'épaule.
« À quoi bon entrer dans les détails ? Moins le conseil en saura et moins les antimulets seront enclins à chercher à le déranger. »
Cela prononcé, comme si la sécurité de la table était son souci majeur, il s'en imprégna l'esprit et le laissa délibérément paraître. Ça les flatterait toujours. Plus encore, la satisfaction qu'ils en retireraient les empêcherait peut-être de se demander pourquoi, en fait, Jean Dibal savait très exactement ce qu'il avait l'intention de faire. 38. Le premier orateur s'entretint seul à seul avec Jean Dibal ce soir-là.
« Vous aviez raison, »
lui dit-il.
« Je n'ai pas pu m'empêcher d'effleurer la surface de votre esprit. J'ai vu que vous considériez ma déclaration comme une erreur.
Et c'en était effectivement une. J'avais une telle envie d'effacer cet éternel sourire,
de riposter à cette façon délibérée d'usurper à tout bout de champ mon rôle. »
Jean Dibal répondit avec douceur. « Peut-être aurait-il mieux valu m'en parler en privé et attendre mon retour avant d'aller plus loin.
Seulement, cela ne m'aurait pas fourni l'occasion de l'attaquer.
Bien pauvre prétexte, je l'admets, pour un premier orateur. Ce n'est pas ça qui l'arrêtera, premier orateur. Elle va continuer d'intriguer pour avoir votre poste, et peut-être non sans de bonnes raisons. Je suis sûr que certains vont arguer que j'aurais dû refuser ma nomination. Il ne leur serait pas trop difficile de soutenir que c'est l'oratrice de l'armée qui a les meilleures capacités à la table, et que c'est donc elle la plus qualifiée pour occuper ce poste.
Les meilleures capacités à la table, effectivement. Certainement pas en dehors,
grommela Chandès.
Elle ne reconnaît aucun ennemi véritable, sinon les autres orateurs. D'abord, elle n'aurait jamais dû accéder à ce poste. Tenez, vais-je vous interdire d'emmener la paysanne Choyenne? Et c'est de l'armée qui vous y a amené, je le sais bien.
Non. Non, la raison que j'ai avancée pour la prendre avec moi est tout à fait réelle. Elle peut effectivement jouer le rôle de système d'alerte avancée. Et je suis reconnaissant à l'oratrice de l'armée de m'avoir poussé à en prendre conscience. Cette femme se révélera fort utile, j'en suis convaincu.
À la bonne heure. Au fait, je ne mentais pas, moi non plus. Je suis sincèrement convaincu que vous ferez absolument tout ce qu'il faut pour mettre un terme à cette crise, si vous voulez vous fier à mon intuition.
Je crois que je le peux. D'autant que je suis d'accord avec vous. Je vous promets que, quoi qu'il advienne, je saurai largement rendre la monnaie de la pièce. Je compte bien revenir pour être premier orateur, quoi que puissent faire les antimulets et l'oratrice de l'armée. Tout en parlant, Jean Dibal examina d'un œil critique sa propre satisfaction. Pourquoi montrait-il ce plaisir, cette ardeur, à se lancer dans cette aventure en solitaire dans l'espace? L'ambition, bien sûr. Prim Palver avait fait exactement la même chose, et il allait leur montrer que Storr Jean Dibal en était capable, lui aussi. Nul ne pourrait lui dénier la fonction de premier orateur après cela. Et malgré tout, n'y avait-il pas autre chose que de l'ambition derrière tout ça? L'attrait du combat? Un désir plus général d'action bien compréhensible pour qui avait été confiné toute sa vie d'adulte dans quelques recoins cachés d'une planète perdue? Il ne savait pas au juste. Mais ce qu'il savait, c'est qu'il avait une furieuse envie de partir.